Patience, patience. Dans quelques instants, l'équipe d'Achaïra sera prête. Mais vu la densité de l'actualité, nous avons un peu de retard. Allez, vers 9h, entre 9h05 et 9h10, on se donne rendez-vous. À tout de suite.
La clé des ondes.
Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons lourds? Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon? Que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon lourd? Les chiens qui nous surveillent sont issus de la science. Combien de satellites au-dessus de la France? Combien au-dessus de l'Afrique pour gérer ces mouvances du Zaïre au Rwanda? Un troupeau en errance, quelque part en Irak, un vieux berger en démence. Et tous ces ovinés de Bosnie, du Tibet, qui meurent dans les abattoirs des nouveaux bergers. Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons lourds? Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon? Que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon lourd? Les nouveaux bergers peuvent, mais ont peur de donner. Les barbelés s'étendent sur les troupeaux affamés. Et bien que la tonte ait lieu chaque hiver, chaque année, tout le monde sait bien ce que le berger pense. Un pull pour l'hiver et couvrir ses dépenses. Thank you.
Les bergers les ont-ils tous tués de leurs fusils? Si seulement ils savaient qu'à chaque lune que je vis, je coupe un barbelé pour me farcir une brebis. Attention à mes montagnes, je flaire le carnage. Je sens que chez les loups le festin va faire rage. Il reste quelques clans qui vous surveillent de loin. Tu sens sur les babines prêts pour le grand festin. Attention à mes montagnes, je flaire le carnage. Je sens que chez les loups le festin va faire rage. Il reste quelques clans qui vous surveillent de loin. Du sang sur les babines, prêts pour le grand festin. Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons lourds? Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon? Les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon. Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons lourds? Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon? Que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon. Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons?
Attention, attention.
Que... Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra.
Et on coupe le micro. Allô, on cesse les interférences et on commence à raisonner.
Polémisons calmement.
Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
C'est Achaïra, l'émission un jeudi sur deux sur la clé des ondes, animée par le cercle Jean Barruet de la Fédération anarchiste. Alors, ce soir.
Mais ce soir, moi, je vais aborder la question du secteur de la petite enfance et des attaques qu'elle subit.
Bonjour, ce soir pour l'association Génération Palestine, je vais vous parler du séjour qu'on organise cet été en Cisjordanie.
Je vous présenterai le livre de Claire Ozias, Cœur de femme tzigane.
Et moi je vous présenterai un autre bouquin de David Graber qui s'appelle Pour une anthropologie anarchiste.
Oui, eh bien, Philippe, eh bien, moi, j'interviewerai notre invité de ce soir, Stéphane Lhomme. Nous en dirons plus tout à l'heure. Et s'il y en a quelques minutes, eh bien, je discuterai avec André du livre de Graber sur l'anthropologie anarchiste.
Damien, moi, je vais faire un petit topo donc, sur pour mettre en contexte donc, les difficultés de Stéphane Lhomme par rapport donc, à l'écologie politique et ses dérives ces dernières 10 années. Je vais aborder également rapidement donc, la manifestation demain à 14h à Place de la Victoire pour les sans-papiers. Donc, je parle à tous les auditeurs de nous rejoindre à Place de la Victoire à 14h demain après-midi.
Nous y serons. Mais Alain, moi je vais vous parler de ce qui s'est passé, de la manifestation donc, qui a eu lieu au Pays Basque pour, par rapport à la disparition de John Hanza et plus largement de la situation au Pays Basque et aussi de la journée de la grève des chômeurs qui se prépare pour le 3 mai. Voilà, ça fait la grève des chômeurs, oui, mais justement. Voilà, voilà. Alors...
Est-ce que nous commençons par des éphémérides, c'est ça ?
Non.
Ah bon, on commence par Stéphane Lhomme.
Oui,
d'accord.
Voilà, oui. Alors, on va d'abord vérifier qu'il est bien, que Stéphane nous entend bien et qu'il est en ligne. Alors, allô, Stéphane, est-ce que tu nous entends ?
Non, mais attends, là.
Oui, il faut basculer sur le...
Entrée auxiliaire.
Non, téléphone, oui.
Téléphone.
Allô ?
Allô, allô.
Voilà, Stéphane est en ligne.
Je pense que tout le monde entend. Voilà. Donc, bien Stéphane, donc nous avons appris que tu avais eu des difficultés avec ton employeur, qui est un petit peu particulier. Donc, on a recherché un petit peu. Voilà, on s'est rappelé qu'en Gironde, il y avait eu cet employeur donc spécialisé dans la lutte contre le nucléaire. En Gironde, donc, il y a eu des moments forts avec la création de la centrale de Blaye, de Brou et Saint-Louis vers les années 75, qui avait amené à des réunions autour des Amis de la Terre, rue de la Devise, il y a cela un certain temps. C'était au siècle dernier déjà, la création d'un comité antinucléaire, rue Plantereau, j'ai retrouvé ça. Ensuite, il y a eu des mobilisations, on se rappelle, dans les années 77, Malville, et puis les mobilisations autour de la centrale d'Agen, de Golfech. Dans les années 80, j'ai eu 10 000 personnes, octobre 81, 4 000 personnes qui s'affrontent avec la police socialiste de l'époque, qui avait trahi ses promesses, qui avait certes suspendu Plogoff, des pierres contre les... Je ne me rappelle plus le titre, mais enfin, à l'époque c'était je crois des pierres contre les chats, le titre de la lutte de Plogoff en Bretagne. Et donc, vu rapidement, mais tu nous expliques un petit peu dessus, 1989, plus de 8 ans après, se recrée un mouvement qui fédère un petit peu autour de Golfech, Stop Golfech, et qui participe en 97 à la création du réseau Sortir du Nucléaire. Est-ce que tu peux nous parler de ses débuts, de l'objectif de ce réseau, à son point de départ, à cette période-là, si ce résumé rapide te convient?
Oui, effectivement. Il avait été constaté que il y avait des groupes anti-nucléaires, mais qui étaient un petit peu éclatés ici ou là en France, et que ça aurait été utile d'essayer de rassembler un petit peu tout le monde, ce qui a été fait autour d'une charte qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui avait le mérite de poser les bases de l'opposition au nucléaire. Et donc en particulier qui ne donnait pas qui avait pris le parti de ne pas donner de durée précise pour sortir du nucléaire, parce que comme ça, eh bien, ceux qui voulaient sortir en 5 ans, ceux qui voulaient sortir en 10 ans, ceux qui voulaient sortir en 15 ans, en 20 ans, pouvaient tous se retrouver dans le réseau, et l'essentiel étant de lutter ensemble pour arriver à faire en sorte que cette décision de sortie soit prise. Alors on peut éventuellement contester cette idée de justement de ne pas préciser la durée de sortie, mais disons que ça a bien fonctionné, ça a permis de rassembler au départ quelques dizaines, puis quelques centaines d'associations, jusqu'à 880. Donc quelque part, la démarche du réseau Sortir du Nucléaire a vraiment eu du bon et a bien marché, a bien fonctionné, jusqu'à il y a peu, on va dire, puisque il se trouve que petit à petit, le succès aidant, il a fallu, c'est un choix, embaucher des salariés pour telle ou telle activité. Alors j'en parle en connaissance de cause, puisque moi-même j'étais depuis 8 ans porte-parole, je m'occupais du suivi de l'actualité, des communiqués de presse, de réponses aux médias et autres. Mais il y a eu aussi donc une webmestre, une personne pour la comptabilité, une personne pour faire les colis, pour envoyer les tracts aux militants, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y avait un pôle d'une douzaine de salariés à Lyon au siège, et puis donc moi-même qui était décentralisé, puisque j'ai toujours bossé à domicile, alors en lien par internet avec le conseil d'administration en particulier, qui validait les propositions de communiqués que je faisais. Donc disons que ça a bien fonctionné, on a eu quand même quelques succès, on a révélé des informations cruciales sur l'industrie nucléaire, sur les réacteurs. Donc on va dire que tout allait bien jusqu'à il y a peu, et depuis décembre dernier, on est dans une crise très importante qui révèle à la fois des problèmes certainement de personnes ou de rivalité ou de ce qu'on veut, mais aussi malheureusement et inévitablement, on va dire, des vrais problèmes de divergence stratégique, voire politique.
L'administration, lui, n'est pas... le conseil d'administration n'est pas composé de salariés, lui, ce sont des...
Voilà, le conseil...
Comment tu nous résumes un petit peu la démocratie interne du réseau?
Oui, le conseil d'administration est composé de représentants de groupes locaux, donc de groupes en lutte, donc en ça c'était très bien, vous avez des gens d'un petit peu partout en France qui sont élus... Donc il y a 9 membres du conseil d'administration qui sont renouvelés par tiers tous les ans. Donc tous les ans il y en a 3 qui sont renouvelés, et donc il y a des personnalités emblématiques comme Didier Angers qui est connu depuis 35 ans pour lutter contre l'industrie nucléaire dans le Cotentin, là où on trouve la Hague, l'EPR actuellement, voilà, des gens un petit peu comme ça. Donc ces bénévoles, hein, donc le conseil d'administration sont des bénévoles, dépensent beaucoup de temps et d'énergie pour participer, pour animer cette lutte anti-nucléaire, et c'est remarquable, et disons que ça a bien fonctionné. À côté de ça, c'est mis en place une administration, on va dire une bureaucratie, donc avec des salariés à Lyon, pour systématiquement... À chaque fois que quelqu'un était embauché, c'était pour de bonnes raisons matérielles, il fallait bien faire ci, il fallait bien faire ça. Mais finalement, on s'est retrouvé en particulier avec un salarié qui, au fil du temps, est devenu directeur administratif, puis directeur tout court, DRH, et puis qui finalement a construit un pouvoir bureaucratique. Et le dernier avatar de cette affaire, c'est qu'il a réussi à faire en sorte que lors de l'Assemblée générale de février dernier, les administrateurs soient tous débarqués en bafouant les statuts qui prévoient un renouvellement par tiers, de manière à mettre à la place des administrateurs qui lui conviennent mieux, c'est-à-dire qui sont alignés sur ses propres positions, qui malheureusement au fil du temps sont devenus, on va dire, de moins en moins anti-nucléaires et beaucoup plus soft, on va dire. C'est à se demander si ce personnage ne souhaite pas être dans la liste des écologistes officiels qui sont reçus de temps en temps à l'Élysée, par exemple. Allô.
Ah oui, pardon. J'ai dit, ce conseil d'administration, on pourrait penser qu'il, comment dire, justement, qu'il reflète, parce que tu as parlé de 881 associations, donc quelle est leur expression un petit peu au sein de ces décisions, et est-ce que l'ensemble des salariés, eux, ils sont choisis que de façon, on va dire, technique, ou aussi en fonction de courants qui existeraient au sein du réseau?
Eh bien, au début, donc le réseau il y a 10 ans, hein, donc au tout début, c'était des militants qui étaient embauchés. Moi-même, j'étais administrateur du réseau Sortir du Nucléaire. J'animais un groupe local qui existe toujours en Gironde, Tchernoblaï. Et c'est sur cette base-là que j'ai été embauché comme salarié, mais je suis toujours défini comme un salarié militant. Mais justement, au fil du temps, ont été embauchés des gens qui n'étaient pas des militants, qui avaient des compétences en comptabilité, en informatique, en plein de choses. Mais finalement, on s'est retrouvé avec un groupe de salariés qui n'avaient pas de culture politique militante et qui étaient prêts à rentrer dans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire un groupe de salariés, ces gens-là, très poliment, très gentiment, c'est des gens bien sous tout rapport, ils ont fait grève pour soutenir le directeur qui avait lancé une procédure de licenciement contre moi. Peut-être pour une des premières fois dans l'histoire du mouvement salarié, c'est un mouvement de grève pour faire licencier un collègue, puisque je tiens vraiment à le rappeler, bien qu'ayant eu des responsabilités importantes, j'étais porte-parole au niveau national, je n'ai jamais eu la moindre niveau hiérarchique dans le réseau Sortir du Nucléaire. J'ai jamais été le chef de personne et j'ai jamais donné le moindre ordre à personne. Donc j'étais un collègue de ces gens-là et ils se sont mis en grève pour mon licenciement. Donc c'est une tâche noire dans l'histoire du mouvement salarial. Ces gens-là n'ont même pas conscience. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui est inquiétant, c'est que on a affaire, c'est peut-être la génération Sarkozy, des gens pris individuellement, qui sont des gens très gentils, mais qui sont prêts absolument à toutes les horreurs et qui surtout ont le culte du chef, puisque leur directeur voulait me licencier. Certains que j'ai réussi auxquels j'ai réussi à parler m'ont dit, mais c'est vrai, on n'a jamais eu de problème avec toi, mais il faut soutenir le directeur, s'il veut te licencier, il a ses raisons. Voilà où on en est arrivé.
Chef.
Et le, donc, d'abord, le premier point, donc, ta situation actuelle, le licenciement est en cours ou aujourd'hui il est validé?
Déjà, ça y est, le licenciement est effectif depuis le 8 avril. Et donc, ça a ouvert une crise dans le réseau Sortir du Nucléaire parce que, faut vraiment, c'est très important de bien expliquer. On n'est pas sur une affaire de bisbille personnelle, même si effectivement, le directeur en question, a vraiment des ambitions de pouvoir, de domination sur les gens. Mais, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est une orientation politique, c'est-à-dire, que ce monsieur veut faire du réseau Sortir du Nucléaire une organisation beaucoup plus soft, beaucoup plus, on va dire, compatible avec les organisations écologistes qui sont allées au Grenelle de l'environnement, avec France Nature Environnement, WWF, ces organisations qui... Eh bien, on marchait main dans la main avec Sarkozy depuis qu'il est président de la République autour de cette opération politique appelée Grenelle de l'environnement, qui n'a rien donné de bon pour l'environnement, mais qui a permis à Monsieur Sarkozy de se faire passer pour un écologiste. Et donc, on est vraiment confronté à cette problématique de dérapage sur le fond. Sur le fond, c'est ça qui est vraiment important, et donc c'est une vraie affaire politique dans le sens où, eh bien, une fois de plus, on a des gens qui sont en lutte, et puis à côté de ça, des gens qui voudraient édulcorer le message, qui disent qu'il faut apprendre à être raisonnable, à plus trop, à pas toujours protester. Alors quand on est anti-nucléaire en France, il y a 58 réacteurs nucléaires en service et un en construction et un autre en projet. Si on n'est pas en colère quand on est anti-nucléaire en France, eh bien alors on n'a pas, il n'y a plus jamais de raison d'être en colère.
Bon, j'ai vu donc un communiqué de la Fédération anarchiste, donc qu'on a reçu, qui interpellait le réseau. Avant, il y avait eu une lettre au conseil d'administration, donc qui faisait porter une forte responsabilité. D'abord, il disait effectivement la lettre, c'était avant qu'il y ait le licenciement, pour dire ça serait impossible, si jamais il était effectueux. Et donc là, il mettait en avant effectivement, comme tu dis, les questions d'orientation du réseau Sortir du Nucléaire par rapport au sommet de Copenhague. J'ai vu que le journal de la décroissance, pareil, exprimait un soutien. Te soutenait par rapport à ça. Mais tu nous as dit donc qu'il y avait 881 associations dans le réseau. Est-ce qu'à ce jour, il y a justement l'expression de position à la fois par rapport au licenciement et par rapport au sommet, enfin l'orientation par rapport au Grenelle l'environnement où on acceptait de mettre de côté la question du nucléaire? Est-ce que tu as des informations de ce côté-là un petit peu sur... Puisque je pense qu'il va y avoir une nouvelle Assemblée Générale, parce que j'ai pu comprendre qui devrait réunir l'ensemble des structures membres qui se positionneraient.
Nouvelle Assemblée Générale les 19 et 20 juin, mais il faut bien malheureusement comprendre que sur 880 associations adhérentes, bon, il y en a à peu près 500, je pense, qui sont à jour de cotisation, donc ce qui est déjà beaucoup, hein. Mais malheureusement... il y en a généralement que 70 ou 80 qui participent à l'Assemblée Générale parce qu'il faut se déplacer, il faut traverser toute la France. Et puis globalement, jusqu'à présent, on va dire, les gens étaient contents de ce que faisait le réseau Sortir du Nucléaire. Donc finalement, ils ne prenaient pas forcément la peine d'aller à l'Assemblée Générale. Et évidemment, on peut dire que cette année, la donne a complètement changé. Donc le problème, c'est que... Comment informer les gens de ce qui se passe, de la gravité de la situation? Le problème, c'est qu'on n'a pas accès aux listes qui permettent de s'adresser aux adhérents, aux donateurs, aux groupes adhérents. Et donc, c'est la direction bureaucratique du siège à Lyon qui détient toutes ces accès aux données. Alors justement, avec un petit tour de passe-passe... Les administrateurs qui ont été débarqués en février de manière illégale et moi-même, on a réussi à faire passer une lettre qui expliquait la situation, qui faisait des propositions constructives. On a réussi à la faire passer sur les listes du réseau Sortir du Nucléaire. Donc au moins une fois, il y a eu une information contradictoire. Et suite à ça, le nouveau conseil d'administration et le directeur ont porté plainte en justice carrément contre moi-même et contre les administrateurs qui ont été débarqués en février dernier. Et donc carrément, ils font appel à la, on va dire, à la à la justice de l'État pro-nucléaire pour chasser des militants, parce que c'est ce qui maintenant risque de se produire, c'est-à-dire des perquisitions par la police. Donc on voit qu'il y a une véritable dérive d'orientation et puis de pratique, de méthode, et avec aussi toujours une, comme je le disais, une très, très grosse difficulté pour s'adresser aux adhérents de base qui, pour peut-être une bonne partie, ne sont toujours pas, enfin peut-être certains, beaucoup savent qu'il y a des problèmes, mais ils ne savent pas exactement quoi, et surtout ils ne reçoivent que l'information unilatérale venant du siège du réseau Sortir du Nucléaire, qui s'est accaparé donc tous les moyens de communication. Donc effectivement, il y a une nouvelle assemblée générale les 19 et 20 juin, mais on ne sait pas trop comment ça va tourner et à quel degré les gens seront informés, seraient en capacité de reprendre en main leur outil de lutte contre le nucléaire.
J'aurais deux questions. D'abord, une sur le fait que tu dis que le réseau a ses moyens d'information, mais en même temps, on sait que malgré tout, les associations, les moyens, il y a le bouche-à-oreille, il y a d'autres réseaux. Donc l'information finit par arriver. En plus, s'il y a un procès, il est clair que l'information prendra une information aussi par les médias. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut penser que c'est plutôt dans ce genre de situation, on le voit d'une certaine façon, sans faire de parallèle hâtif, mais au niveau du conflit qui a été au sein d'Attaque, le bilan, c'est un affaiblissement très fort d'un mouvement qui était assez costaud. Et donc là, il y a une forme de sabordage, mais de fait, en s'engageant sur une voie qui est contraire aux valeurs du mouvement social, il y a il y a la question d'un des enjeux, parce que est-ce qu'on peut expliquer ça uniquement par des questions de individuel, quoi, de pouvoir, d'ego personnel, puisque là, de fait, il commence à circuler. Alors peut-être que c'est un microcosme, mais je ne sais pas par rapport à la réalité du réseau. Donc ça, c'est la première réflexion. Et la deuxième réflexion, je ne sais pas si pour ne pas faire court, je te donne les deux questions. L'autre question, c'était justement, tu as mis en avant la question du choix de salariés des personnes. On voit que la structure qui est mise en œuvre avec directeur administratif, directeur de ressources humaines, est une, de plus ou moins, alors peut-être que sûrement dans le réseau, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, qu'on est au niveau social, mais on voit que c'est une reproduction quand même de l'organisation des entreprises capitalistes. On est très loin d'une organisation en coopérative pour ces questions-là, par exemple. Et donc la question que l'on pose souvent, nous qui sommes du mouvement libertaire, c'est les limites de l'alliance scabreuse entre la soumission du contrat de travail et la liberté d'expression du militant, quoi, un petit peu. Donc voilà, c'est une réflexion là-dessus. Et puis après, peut-être tu termineras sur l'avenir et le soutien, si tu veux.
Non, mais effectivement, on est vraiment confronté à un problème politique. On se demande, on cherche vraiment à savoir pour le moment ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est seulement une dérive bureaucratique de pouvoir, qui est déjà en soi un très grave problème? On se demande s'il n'y a pas derrière, effectivement, des arrière-pensées derrière cette crise. On sait qu'il y a une présidentielle qui s'approche et que, par exemple, faut être très clair, le Parti Socialiste et Europe Écologie, on voit bien qu'il y a des velléités de faire des alliances éventuellement dès le premier tour, avec peut-être pas de candidat d'Europe Écologie à la présidentielle en échange d'un groupe d'une cinquantaine de députés. Et pour arriver à tout ça, il faut se mettre d'accord. Et quand il y a des choses, des thèmes très clivants comme le nucléaire, l'accord sera pas possible. Donc la solution, c'est peut-être tout simplement de pas en parler. Pour éviter d'avoir des problèmes, il suffit de pas en parler. Et donc dans ce cadre-là, peut-être que en faisant taire le réseau Sortir du Nucléaire, ou en s'assurant qu'il soit pas en capacité de peser sur la campagne et de mettre cette affaire de nucléaire sur le devant des discussions, on pourra faire en sorte que cet accord entre le PS et l'Europe Écologie puisse se faire tranquillement. Il suffira de dire qu'on rajoutera quelques éoliennes ici ou là et tout ira bien. Donc, faut peut-être pas toujours peut-être des machinations effroyables dès qu'il y a un problème, mais cette hypothèse n'est pas quand même complètement farfelue. Donc ben voilà, c'est à ça qu'on est confronté. Effectivement, un petit peu comme attaque, on s'aperçoit que forcément le réseau sortir du nucléaire va sortir complètement affaibli de cette affaire, voire peut disparaître. Actuellement, il y a du chômage technique au niveau des salariés restants, puisque beaucoup de donateurs, effectivement, comme tu le disais, l'information malgré tout circule par le bouche à oreille, par Internet, c'est normal et c'est légitime. Et beaucoup de gens annulent leur financement, leur dons, leur prélèvement automatique. Et donc, le réseau va peut-être disparaître ou au moins être très largement affaibli, et la lutte anti-nucléaire. Donc, est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu des problèmes de personnes, de pouvoir au niveau bureaucratique, ou est-ce qu'il y a des arrière-pensées, des manœuvres politiques derrière? Ça sera intéressant de le savoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça n'est vraiment pas une bonne chose, à la fois pour l'environnement, mais pour l'organisation de la société, puisqu'on le sait, le nucléaire, c'est des problèmes environnementaux, mais aussi des problèmes d'organisation de la société, des problèmes de police, de surveillance des citoyens, des militants. Voilà, c'est un problème très très général et très finalement très très illustratif, très symbolique de la société dans laquelle on vit actuellement.
Et sur le choix de directeur administratif, directeur RH, ça s'est fait au fil de l'eau ou ça fait l'objet de débats?
Petit à petit, un salarié qui faisait la coordination au siège au bout d'un certain temps, il y a 5 ou 6 ans peut-être, je sais plus, a fini par dire, mais quand on rencontre les autres associations, ils sont directeur général, moi je suis rien, tout ça. Donc le conseil d'administration un jour